Lettre coréenne. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettre coréenne. Cette semaine, nous vous proposons de lire ensemble la nouvelle de Choi Jong-hwa, La main.
Depuis plus d'un mois, 5 petits-enfants se réunissaient en bas de chez moi, chaque matin, dans la pénombre de l'aube. Le groupe était composé de 2 garçons et 3 filles. Pourtant, je ne les avais jamais vus. Si je savais quelque chose d'eux, c'est parce que j'entendais tous les jours leur voix, malgré moi. La bande s'était formée assez récemment. Un garçon et une fille se disputaient la place de leader. À force de les écouter bavarder bruyamment chaque matin, à moitié endormi et à moitié réveillé, j'ai fini par considérer des choses dont je n'avais jamais été témoin.
Cette nouvelle, publiée en 2018, commence par le monologue de la narratrice protagoniste. Elle se réveille tous les matins avant le lever du soleil au son des voix des enfants du quartier.
J'étais sur le chemin du travail lorsque je me suis arrêté devant le parterre de fleurs. D'habitude, je passais à côté sans y faire attention, mais ce jour-là, quelque chose de dérangeant m'a sauté aux yeux. Un moineau mort gisait. L'oiseau couché sur le côté, exposant son ventre blanc. Il était minuscule et mouillé par la pluie. Je me suis demandé un instant si je devrais l'enterrer, mais je devais me dépêcher pour ne pas être en retard.
Notre narratrice ne cesse de penser à ce petit moineau, même lors de la réunion et à l'heure du déjeuner. Qui aurait pu le tuer? Les enfants du quartier? Mais ils ne peuvent pas être si cruels et faire une chose pareille. Puis, elle se souvient d'un homme suspect.
J'ai pensé à l'homme du 5e étage qui traînait devant notre immeuble comme un chat errant fouillant dans des sacs poubelles à la recherche de nourriture. Il me semblait qu'il n'avait pas de métier fixe. Son unique passe-temps était de regarder des séries télévisées. Dès qu'il me voyait, il parlait des dramas. Il s'exaltait facilement comme si les événements fictifs avaient réellement eu lieu. Ces derniers temps, il se passionnait pour une série policière américaine. Il m'a affirmé qu'il pouvait prédire ce que les personnages diraient et feraient. Il regardait en effet chaque épisode plus de 10 fois. Il était même capable de réciter toutes les répliques. Cependant, les scènes qu'il connaissait par cœur ont fini par le tourmenter. Il s'est donc créé un autre passe-temps. Il s'est autoproclamé shérif de notre immeuble. Il patrouillait dans le complexe résidentiel avec cette expression indifférente, propre à lui. Quand il trouvait quelque chose, à son avis, de perturbant, aussi petit et insignifiant que ce soit, il remplissait alors son devoir de shérif avec le plus grand sérieux.
Ce soir-là, notre narratrice trouve son voisin du 5e étage à l'entrée du bâtiment. L'homme en colère guette pour attraper un résident qui n'a pas utilisé de sac poubelle recyclable.
A-t-il vu le moineau? Si oui, il aurait longuement réfléchi à la poubelle qu'il aurait dû utiliser pour se débarrasser de l'oiseau mort. Ce n'était ni un déchet alimentaire, ni un déchet du quotidien, ni un matériau recyclable. Cela lui aurait donc causé une grande confusion. Son imagination était si limitée qu'il n'aurait même pas pensé que l'oiseau mort était autrefois vivant.
Ces temps-ci, la narratrice est consternée par la disparition de son collègue Park. Il ne vient plus au bureau depuis 2 semaines, mais elle se demande encore ce qu'il lui aurait conseillé pour résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée. Alors que Park a disparu sans laisser aucune trace, après avoir causé d'énormes pertes à l'entreprise, elle ne veut pas entendre d'autres employés le blâmer, car, pour elle, c'est quelqu'un de bien. Puis un jour, un certain Ha arrive pour remplacer Park.
« J'ai essayé d'être aussi gentil que possible avec lui, mais je n'ai pas réussi à dissimuler mon sentiment de gêne. Une ombre de malaise se lisait sur le visage de Ha alors qu'il me serrait la main. Nous sourions tous les deux du bout des lèvres, mais nos regards ne se sont pas croisés et notre poignée de main était molle, comme une charnière branlante. Lorsqu'il a retiré sa main, j'ai pensé au mouvement flexible d'un petit poisson. Cette sensation de mollesse et de souplesse était assez étrangère et forte pour me réveiller d'un étourdissement dû au manque de sommeil. À l'opposé de son visage anguleux et de son regard perçant, il avait des mains trop douces. Comme il remplaçait Park, il était assis à côté de moi. Je me détournais pour ne pas les voir, mais en vain. Ses mains attiraient constamment mon attention. Elles semblaient dépourvues de tout muscle. Il se coupait les ongles à ras si bien que la peau au bout de ses doigts était sanguillonnante. Alors que j'établissais un plan de table pour un événement en plein air prévu pour la semaine suivante, toutes mes pensées ont été captivées par le mouvement de ses mains. Il avait un tube de crème pour mains de 330 millilitres sur son bureau et l'appliquait une fois toutes les 15 minutes. Juste au moment où je me remettais enfin au travail, il prenait le tube comme s'il m'observait. J'avais l'impression d'être soumise à une étrange torture. Au bout d'une semaine, Ha s'est rebellé contre moi. Il a dit que Park n'avait pas travaillé de façon efficace. Puis, il a changé d'avis quelques jours plus tard. Il a dit cette fois que la capacité de Park n'était pas le problème, en affirmant que son prédécesseur avait dû créer plusieurs fichiers différents à des fins douteuses. C'était comme s'il l'accusait d'escroquerie.
La narratrice fixe son attention sur la main de son nouveau collègue. Voici Park Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, qui nous explique la relation entre la main de Ha et l'homme du cinquième étage.
Ha a les mains veloutées et souples. Ce personnage est obsédé par l'hydratation de ses mains. Il les soigne toutes les 15 minutes avec de la crème. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cette manie de la propreté est-elle une habitude saine? Ce personnage tente obstinément d'éclaircir les secrets et de trouver les preuves de corruption de son prédécesseur. On peut le comparer avec l'homme du cinquième étage qui, de son côté, surveille ses voisins et intervient dans leurs affaires. Les mains de Ha représentent son obsession pour la propreté, mais impliquent également qu'il viole la vie privée des autres et les juge à sa mesure.
La narratrice aperçoit que quelque chose ne va pas dans le groupe des cinq enfants. Ils sont très agités et poussent des cris. Le bruit désagréable qu'ils produisent lui fait perdre patience. Elle se lève avec l'intention de les chasser, mais lorsqu'il est sur le point de sortir de chez elle, le silence règne soudain. Comme si les enfants la surveillaient depuis le début, le chahut se calme au moment où elle pense ne plus pouvoir le supporter.
Ce matin-là, le moineau mort gisait sur un petit tas de terre sur le parterre de fleurs. Quelqu'un a dû avoir fouillé l'endroit où il avait été enterré. L'oiseau décomposé était si endommagé qu'il ne ressemblait guère au moineau que j'avais vu l'autre jour. La forme générale était quand même reconnaissable, mais les parties les plus putrescibles étaient creusées comme si quelqu'un les avait arrachées de ce petit corps. Je ne voulais pas le voir. J'ai donc détourné le regard avant de pouvoir sentir l'odeur désagréable. J'ai cassé une branche d'arbre avec laquelle j'ai ensuite commencé à creuser le sol. J'ai arrêté quand le trou est devenu assez profond pour mettre en terre l'oiseau. J'ai mis le petit corps dedans à l'aide de la branche. J'ai poussé un long soupir quand il est enfin entré dans le creux. Les enfants ont-ils vraiment commis cette atrocité? Je me suis rappelé leur chahut. Je ne savais plus si ces bruits étaient des hurlements ou des cris de joie. Toutes les hypothèses que j'avais construites la veille ne semblaient plus tenir.
La tension entre notre narratrice et le successeur de Park, Ha, s'aggrave. Lui tente d'énoncer directement au chef d'entreprise les fautes de Park, alors qu'elle le laisse faire, affirmant que c'est son rôle à elle de signaler à son patron toute faute commise par un employé. Ha ne lui parle plus de son prédécesseur depuis cette dispute. Puis, un jour, il demande à notre narratrice si elle a prêté de l'argent à Park.
Pas du tout.
Sur ce, elle avertit son collègue de ne pas lui demander quoi que ce soit qui risque d'envahir sa vie privée.
Je n'aimais pas que les gens dénigrent Park. C'était particulièrement difficile pour moi de les écouter calomnier sa personnalité. Ceux qui parlaient durement de lui auraient fait quelque chose de bien pire s'ils étaient à sa place. Park était dans une impasse, c'est tout. Il ne voulait pas nous causer des ennuis.
Un jour, la sirène hurlante arrache notre narratrice de son sommeil. Une voiture de police et une ambulance se garent devant son immeuble. Il tombe de la neige fondue.
Peu de temps après, une personne couverte d'un drap blanc a été déplacée sur une civière. Le tissu était blanc quand elle était sortie du bâtiment, mais il a rapidement été imprégné de taches rouges, comme si le vent dispersait des pétales de fleurs dessus. Je me suis dit, la main droite. Le sang s'est mis à couler de l'endroit où se trouvait la main droite de cette personne. Était-ce une tentative de suicide, ai-je pensé? J'avais lu quelque part que les gens qui tentent de se suicider en se tranchant les veines du poignet ne veulent pas vraiment mettre fin à leur jour. Les habitants du quartier se sont réunis en cercle, à côté de la voiture de police. Un périmètre de sécurité a été installé autour du bâtiment. Un homme, menotté, a été conduit hors de l'immeuble. Il portait un ensemble de sous-vêtements jaunâtres. De petite taille, il avait un visage rond et les cheveux courts en broussailles. Je me suis dit que ce n'était pas lui qui l'avait fait. Ses sous-vêtements étaient trop propres. Il n'avait aucune tache de sang sur lui. Quand j'ai pensé à la possibilité qu'il aurait pu poignarder l'autre personne avec tout son corps enveloppé par le plastique, je n'avais plus envie de donner libre cours à mon imagination. J'ai fini par fermer la fenêtre.
Dès qu'elle sort de chez elle pour aller au travail, elle repère à nouveau le moine mort.
Le parterre de fleurs était en désordre. Les enfants ont dû creuser une nouvelle fois le trou. Le petit corps, couvert de boue à cause de la pluie de la nuit dernière, ne ressemblait plus à un moineau. « Ça, c'est trop !» me suis-je dit. J'avais du mal à comprendre pourquoi les enfants feraient tout ça.
Elle décide d'enterrer l'oiseau mort dans un autre endroit et creuse un trou à l'autre extrémité du parterre. Lorsqu'elle est sur le point de déplacer la carcasse avec une pelle à poussière, elle aperçoit son voisin du cinquième qui la regarde, les mains croisées derrière le dos.
Je me demandais qui déterrait le parterre de fleurs.
Quelqu'un continue à creuser la tombe du moineau. Je viens de l'enterrer à nouveau.
Un moineau? Je m'en fiche que vous enterriez un moineau ou un chien. Vous n'avez qu'à remettre tout en ordre. Mais avez-vous vu ce qui s'est passé tôt ce matin? C'était un crime passionnel. Je me suis brusquement souvenu des mains de l'homme menotté. C'était pourtant absurde. Je n'avais jamais vu de près les mains de cet homme. Mais les mains blanches, trapues et poilues liées avec des menottes ont soudainement jailli devant mes yeux.
Notre narratrice se rappelle les mains de l'homme menotté alors qu'elle parle avec son voisin. Voici la critique littéraire Chun Soo-young qui nous explique pourquoi elle est si obsédée par les mains.
나라는 1인칭의 화자의 시점으로 이야기가 전개가 될 때는
Lorsqu'ils lisent un récit à la première personne, les lecteurs ont tendance à croire tout ce que le narrateur dit et montre. Mais il faut parfois se méfier de lui, car les informations fournies peuvent être fausses ou déformées. Les lecteurs font facilement confiance au narrateur qui semble observer très attentivement ceux qui l'entourent et prendre des décisions rationnelles. Pourtant, plus cette histoire avance, plus la narratrice protagoniste se montre obsédée par les mains de ses collègues et voisins. Au début, les lecteurs pensent que les gens autour d'elle sont étranges. Mais ils finissent par se rendre compte que la narratrice est la plus étrange de tous les personnages.
Ayant été retenue par l'homme du cinquième étage, la narratrice arrive en retard au bureau. Elle trouve les autres employés tout bouleversés. La petite amie de Pac s'est présentée avant son arrivée et a affirmé que leur ancien collègue était un arnaqueur. Elle lui avait prêté 10 millions de won, mais elle s'est totalement faite escroquer.
Elle avait dû faire confiance à Park, comme moi. J'ai été plus dévastée par le fait que je n'étais pas la seule victime de l'escroquerie montée par lui que quand il avait disparu sans dire un mot. J'ai dû revenir de mes illusions. Je n'étais pas la seule personne dont il avait besoin dans sa vie.
La narratrice ouvre le dossier personnel de Park. La photo sur son CV ne lui ressemble pas et les noms de ses précédents employeurs sont faux. Ce soir-là, lors du dîner d'entreprise, Ha évoque de nouveau les erreurs de Park. Il ajoute qu'il doit y avoir plus de victimes de sa fraude. C'est alors qu'un serveur qui faisait griller la viande pousse un cri et cache son poing derrière son dos.
Ah, ce n'est rien, je vais bien, je viens de me brûler le doigt avec la casserole. Le serveur a déposé un morceau de viande sur le grill. Une longue ligne blanche le long de son index a commencé à gonfler et une ampoule s'est rapidement formée dessus. Cela me paraissait bizarre de voir sa brûlure en même temps que la viande cuite sur le grill.
Ce jour-là aussi, elle trouve son voisin du cinquième étage en train de faire des allers-retours sur un terrain vague devant l'immeuble.
J'ai vu quelque chose d'étrange sur le parterre de fleurs.
N'était-ce pas un moineau ? J'ai aussi vu un moineau mort il y a quelques jours.
Mais non, ce n'était pas un moineau. Quelqu'un y a enterré une main.
Il s'est arrêté exactement à l'endroit où j'avais trouvé le moineau mort. Il faisait sombre, mais je pouvais discerner les restes de l'oiseau. L'homme a éclairé le parterre de fleurs avec sa lampe de poche. Les os des ailes du moineau ont été soigneusement placés dans une rangée. J'ai été soulagé de voir que ce n'était que des os d'ailes bien disposés sur le sol. Je vous ai dit que c'était un moineau. Il était là depuis quelque temps déjà. Comme l'homme semblait si nerveux, j'ai esquissé un sourire, comme si de rien n'était. Je l'avais enterré ici il y a quelques jours. Quelqu'un a dû le déterrer à nouveau. Regardez de plus près, ce n'est qu'un moineau. L'homme du cinquième étage m'a regardé d'un œil suspicieux, comme si j'étais folle. Mais c'est lui qui était fou. Il n'était pas sorti de cette zone autour de notre immeuble depuis plusieurs mois. Il a dû perdre la tête à force de regarder la même série télévisée encore et encore. Hey, calmez-vous. On n'est pas dans un drama. Les enfants ont dû le déterrer. Vous savez, ces enfants qui viennent ici tous les matins. De quoi parlez-vous ? L'homme m'a bousculé brutalement. Il a marmonné que tout le monde avait dû devenir fou après cet incident. Il a craché par terre avant de s'éloigner de moi sans même dire au revoir. Il boitait et son corps était légèrement incliné à gauche. En le regardant monter les escaliers, je me suis dit qu'il ne serait plus capable de marcher droit dans quelques années.
Retrouvons une dernière fois la critique littéraire Chun Soyeon qui nous en dit un peu plus sur cette dernière scène.
La narratrice croit que c'est un moineau, alors que l'homme du cinquième étage affirme que c'est une main. Nous pouvons supposer que la narratrice délire ou ment. Nous ne savons plus si nous pouvons faire confiance à ce qu'elle dit. L'auteur essaie de nous faire comprendre que les gens voient le monde comme ils le veulent et deviennent parfois tellement piégés dans ces perspectives qu'ils finissent par mal comprendre les autres ou l'environnement qui les entoure. L'oiseau mort est en fait une main. Personne ne sait qui a laissé cette main sur le parterre de fleurs ou qui continue de la déterrer. Cependant, je pense que la narratrice peut être la coupable et que la main coupée aurait pu être celle de Park. À en juger par les circonstances, la narratrice pouvait avoir une relation amoureuse avec lui. Elle aurait donc pu le tuer après avoir découvert sa trahison. Mais ce n'est qu'une supposition. Il peut y avoir de nombreuses autres possibilités.
Ainsi se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à la nouvelle de Choi Chang-hwa, La Main. C'était Yun Yeni au micro avec Xavier Liu-dé au doublage et Oh Ha-young à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle coréenne la semaine prochaine. Au revoir.